OK. Voici Marceau le midi avec Marceau et Pascal CV.
Denis Gravel qui est en place pour le Pit Stop. Salut mon ami.
Hello.
T'as-tu passé un super de beau week-end? T'as-tu profité de la température ou tu t'es réfugié à l'air climatisé?
Ça a été 50-50. Écoute, on dirait que la journée d'hier, elle nous a tout aplati chez nous. Puis maintenant, on s'est comme dit, ben coudonc, vivons à l'air climatisé pendant une journée. On va regarder un peu de TV, on va relaxer, puis on va suivre le mood. Là. Mais c'était pesant.
Quand tu as le choix, tu sais, quand tu peux être à l'air climatisé, puis après ça, tu sors dehors sur la terrasse, tu relaxes un peu, tu rentres à l'air climatisé, puis ça, tu vas te baigner, puis tout ça, c'est correct. Mais je pensais aux gens qui sont dans les hôpitaux présentement, sans être trop dramatique. Là, quelqu'un que je connais bien, avec qui jasais, qui était à l'Hôtel-Dieu de Québec, qui mentionnait que bon, il accompagnait quelqu'un qui était fin 80, puis il restait quelques jours à vivre, puis tout le monde avait chaud, incluant les employés.
Ah, oh, c'est l'enfer.
Les gens pognaient les nerfs, là.
Ben, c'est sûr.
Ils sont quatre dans les chambres.
C'était quoi ton truc, toi, pour aller chercher un peu de fraîcheur quand tu vivais dans un appartement?
J'ai longtemps eu l'air climatisé. Je me rappelle pas de chaleur intense où fallait que je trouve une place, mais je pense que les meilleurs endroits, c'est les salles de cinéma, aller faire ton tour aux galeries de la capitale.
On a tous les mêmes trucs, hein? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, les étés de canicule, là, j'en voyais des films que ça me tentait pas de voir. Là.
On allait
chez les voisins?
Ouais, non. Mais tu sais, tu rentres dans la salle de cinéma, puis tu passes l'après-midi là, tu t'achètes un billet, puis t'écoutes trois films. Là.
Ouais. On allait. Ouais, mais c'est ça, exactement.
Ah oui.
Tu te cachais?
Ben, écoute.
On allait. Des fois, on allait à Baie de Beauport. Dans le temps, on n'avait pas le droit de se baigner, mais nous autres, on se baignait pareil. C'est peut-être ça le résultat de ce que tu vois là présentement. Mais on se baignait pareil. Je sais pas. J'aurais peut-être été faire un tour. Je ne sais pas si tu étais à la nouvelle plage là, sur la promenade Samuel de Champlain. C'est vraiment de toute beauté.
Ah oui, ben je passe là une fois de temps en temps, puis c'est sûr qu'on va aller parquer la petite famille à un moment donné. C'est vraiment, ils ont vraiment fait quelque chose de beau.
Ouais. Ça me prend un véhicule proche, honnêtement. Là, okay. Parce que là, il y a des autobus qui sont organisés. Ça me prendrait un véhicule proche, là, mais ça a l'air vraiment le fun.
Oui, puis veux pas, sur le bord du fleuve, tu as tout le temps la brise, hein, qui te donne une petite chance là, quand il fait bien, bien chaud. Puis oui, les journées ont été particulièrement pesante. Quand tu as le choix, c'est le fun. Pogné d'un hôpital, ça doit être l'enfer en lettres majuscules.
Puis les employés.
Ah, oh, wesh!
Les CHSLD aussi, endroits pour les personnes âgées. Ouais.
Il y a des aires climatisées dans les CHSLD qui sont arrivées dans les dernières années. C'est assez intéressant. Puis ce qu'on me mentionnait pendant le temps de la pandémie, c'est qu'il y a des personnes âgées qui veulent absolument rien savoir de l'air climatisé. Okay. Ils fuient l'air climatisé comme la peste parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont pogner la grippe.
Mais quand c'est un choix, c'est correct. Mais après, le confort de nos aînés, c'est quand même important. Là.
Mais il y a des aires qui sont climatisées. Mais dans les chambres, c'est une bonne question à savoir s'il faut que ça soit à la demande ou pas. Là. OK.
Du 4-5 douches par jour aussi, là.
4-5 douches par jour?
Ah, dans mon appartement, écoute, quand t'as pas accès à une piscine puis qu'il fait chaud, moi j'étais...
Remplis-toi un bain rendu là.
À 5 fois, j'étais au top du building puis il faisait chaud comme ça se peut pas. Pas d'air climatisé dans le building non plus. Dès que tu commences à avoir chaud, qu'est-ce que tu fais? Moi, je prenais une douche froide. J'en prenais 4-5 par jour. Pas besoin de te savonner tout le temps.
Ouais. Mais... c'est pas tout le monde qui comprend le principe là, de réchauffer ton corps pour sortir de la douche, puis après ça, que t'as une impression de fraîcheur.
Ouais.
C'est comme ma grand-mère qui mangeait de la soupe, puis tout le monde la traitait de folle parce qu'elle mangeait de la soupe en plein été. Ben, elle, c'était la personne la plus intelligente autour de la table.
Mais ça fonctionne pour vrai. Ben oui. Quand il fait chaud, manger ou boire du chaud fait en sorte que ton corps va vouloir se rafraîchir.
Mm. Sauf que, tu sais, j'ai pas... quand il fait chaud de même, ça me tente pas d'aller me chercher un café.
Un bon café brûlant. Là, t'es pas dans le mood pour ça, ben.
Exact. Hey, on va parler un peu de l'élection d'Arthabasca dans les prochaines secondes, si tu le veux bien.
Oui.
Mais ça me flabbergasse de voir la sortie du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui sort dans les médias en disant « Là, il nous manque de tout! Il nous manque d'orthopédagogues, il nous manque de psycho-éducateurs, il nous manque de psychologues, il nous manque d'orthophonistes. » Te souviens-tu l'an passé, à pareille date, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous manquait de profs.
Ben oui.
Il manquait de profs à la grandeur du réseau.
Il y a quelques mois, on coupait dans toute cette banque-là financière pour ce genre de travailleurs-là dans le système de l'éducation.
Mais c'est-tu ça que tu veux? C'est peut-être réducteur, là, mais c'est-tu ce gars-là que tu veux comme premier ministre du Québec? Là?
J'espère que c'est pas le souhait de personne autre Bernard Drainville. Pour être bien honnête, je pense qu'il est déjà au-dessus de ses compétences. Mais, tu sais, mettons qu'on préparait la rentrée scolaire comme ça pour nos enfants. Tu sais, à 2 jours de la rentrée. Ah! Oh! Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de stylo. On a oublié d'acheter un cahier. Il n'y a pas de linge. Il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Voyons donc, on se prépare à l'avance. On est responsable. Pourquoi un gouvernement n'est pas capable de planifier ça? Ça fait trois années en ligne qu'on fait face au même problème dans le même temps de l'année et il n'y a rien qui change.
Non. Quand ils ont décidé de couper le gros budget, là, ils ont dit « Bon, ben là, on va faire des réductions. Là, ben c'est plus de 500 millions qu'on doit réduire. » Ben là, les psychoéducateurs, les orthopédagogues et tout ça, ils ont dit « Bon, ben le milieu de l'éducation ne veut pas de nous. Fait qu'on va aller se trouver une job dans une clinique. » Puis là, ben ils ont décidé qu'ils allaient remettre de l'argent dans le réseau de l'éducation. On parle de quoi? De 540 millions. Puis là, ben ils se réveillent.
Mais tu vois qu'il n'y a aucune planification. Aucune.
Moi, je suis animateur de radio. Ouais. Okay? J'ai pas la prétention de pouvoir diriger un gouvernement ou de pouvoir diriger un ministère. Mais lui, c'est sa fucking job.
C'est ça. Puis j'ai l'impression que, comme plusieurs, ben, c'est quelqu'un qui demande d'avoir des gros ministères pour bien paraître, mais qui n'a aucune espèce d'idée quoi faire et comment le faire. Fait que là, dans ce temps-là, tu es à la merci des caprices de ceux qui travaillent dans le ministère, qui veulent garder leur job, qui veulent pas trop que ça change et ainsi de suite. Puis quand tu arrives avec tes grands projets, ben souvent, tu te fais revirer de bord. Ça fait partie des nombreuses choses qui fonctionnent plus ou moins bien dans la machine. Puis on a bien beau se dire, ben ça prend quelqu'un qui vient du milieu de l'éducation. On a eu combien de personnes qui venaient du milieu de la santé, qui sont devenues ministres de la santé, puis qui n'ont pas réussi à améliorer le système sur le fond, tu sais. La solution est dure à trouver, mais on revient tout le temps au même problème. Tu as des ministères qui s'autogèrent au-delà des projets gouvernementaux ou de l'incompétence des ministres. Puis je pense que dans le cas de Bernard Drainville, on parle plus d'une question d'incompétence que d'autre chose.
T'as-tu l'impression que ces ministres-là jasent avec des gens qui sont en théâtre de guerre dans le milieu de l'éducation ou ben, ils font constamment confiance à leurs sous-ministres puis eux autres, ils agissent juste à titre de porte-parole?
J'ai l'impression qu'on fait des conversations cosmétiques. C'est pour bien paraître, là, parce qu'il me semble que des vraies tournées d'école, on aurait dû en faire. On devrait en faire en période de canicule. Bernard Drainville devrait aller détremper ses beaux habits dans une classe quand il fait 42 degrés puis qu'il n'y a pas de climatisation. Bernard Drainville devrait aller respirer l'air que nos enfants respirent dans des classes insalubres. Bernard Drainville devrait essayer de ne pas avoir mal à la tête pendant une journée quand une institutrice est poignée avec 35 flots, dont 10 qui sont hyperactifs. Vive le plancher, c'est ça, là. C'est pas se promener dans un corridor avec trois caméras qui suivent pour faire une vidéo Instagram, là.
Son entrevue à LCN était épouvantable hier. Bon, il dit, il manque de tout, il manque d'orthopédagogues, oui, mais... il manque de psychoéducateurs, il manque de psychologues, il manque des orthophonistes, parce qu'ils ont tous sacré leur camp. Le budget était plus là, ils sont partis ailleurs. On a décidé de réinvestir 540 millions. Et Drainville a dit hier, depuis 2018, on a 100 000 élèves de plus dans le réseau, donc il y a au moins 50 % de ces élèves-là qui sont nés hors du Canada. Fait que ça met une pression sur le réseau. Oui, mais tu n'étais pas capable de le prévoir.
C'est des choses que tu es supposé savoir. On a des chiffres, on a des données statistiques qui te permettent de planifier puis de prévoir ces choses-là. Imagine-toi qu'on arrive au Canac en pleine canicule puis que le propriétaire du Canac hurle avec un porte-voix qu'il ne reste plus rien dans le magasin. Oui, mais Crème, tu savais qu'il allait faire chaud au mois de juillet pour au mois d'août.
Oui.
Pourquoi est-ce que t'es pas, pourquoi est-ce que tu n'as pas tout... rappeler tes effectifs, ton stock, puis tout ça. Les magasins s'organisent et gèrent, sont capables de planifier, sont capables de prévoir. La pénurie dont on nous parle aujourd'hui était au moins prévisible au mois de juin.
Ouais.
Là, on se réveille à une semaine et demie de la rentrée scolaire, puis c'est la panique générale. Puis ça vient du responsable, ça vient du ministre de l'Éducation lui-même.
C'était la même chose l'an passé.
Ben oui.
Je vais faire une prédiction à la Jojo Medium. Là. En décembre, dans nos hôpitaux, il va manquer de lits.
Ben, c'est de même à toutes les années, en décembre et en janvier.
Mais sachant qu'on le sait d'avance, là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place là pour pas que ça arrive, le bordel, dans le réseau de la santé en décembre ou en janvier? Sachant que l'an prochain, à pareille date, en 2026, il va encore manquer d'orthopédagogues, de psychoéducateurs, de professeurs et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il se la pose-tu la question ou c'est de la gestion à la petite semaine? Tu sais, moi, je regarde son objectif cette année à Bernard Drainville, là, c'est de tenter de renforcer la laïcité dans les écoles au plus tard en décembre. Attends un peu, là. Ça, c'est ton objectif. C'est ce qu'il a mentionné hier, là.
C'est on appelle ça être mêlé dans son propre jeu de cartes, là. Ce qui pourrait être intéressant à faire, c'est peut-être ramasser, soit en éducation ou en santé, ces deux ministères qui font du sur place depuis tant d'années. Tu vas chercher 4 ou 5 personnes qui ont été ministres de la santé. Tu vas en chercher au libéral, tu vas en chercher au PQ, tu prends quelqu'un de la CAQ. Puis tu fais une table ronde, puis tu lui demandes, est-ce que l'un d'entre vous a réussi à mener à terme un projet ou une idée? Sinon...
Éric Kirk lève la main.
Non, mais tu sais, faire un genre de table ronde où tu es peut-être capable de trouver qu'il y a des problèmes qui reviennent tout le temps, qui font en sorte que quand tu as une idée en tant que ministre ou quand tu prends un engagement en tant que ministre, tu n'es pas capable de te rendre au bout parce que, je sais pas moi, la machine te bloque. C'est peut-être des syndicats,
ouais.
C'est peut-être de la bureaucratie, c'est peut-être le ministère en tant que tel, peut-être que c'est la méconnaissance aussi. Tu sais, quelqu'un qui ne connaît pas l'éducation en général, comme Bernard Drinville, puis qui arrive pour bien paraître parce qu'il s'est négocié un gros ministère, peut-être qu'il y en a au-dessus de sa tête. Est-ce qu'une personne comme ça est capable de bien s'entourer? Il me semble que si je considère que je suis plus ou moins compétent pour une job, mon premier réflexe serait d'aller chercher du monde qui serait capable de m'informer correctement là, sur le plancher. Des gens qui connaissent ça, des gens qui sont dans ma chaîne depuis longtemps puis qui peuvent travailler de mon bord puis qui peuvent m'expliquer patente. Ça serait intéressant de prendre des gens qui ont été ministres dans les 20 dernières années, idéalement dans le même ministère, des gens qui font plus de politique puis qui ont plus d'intérêt. Là. Juste des asseoir puis dire « Hey! » C'est quoi qui vous empêchait de mener à terme vos idées? Vous avez tout promis d'améliorer le système de l'éducation. Il ne s'est pas amélioré. Vous avez tout promis d'améliorer le système de santé. Il ne s'est pas amélioré. Pourquoi? Vous avez du recul un peu. Là. On peut jaser. Là. Au pire, on va se prendre 2-3 pichets. Là. Hein? On va délier les langues un peu, mais ce serait le fun en tant que société de comprendre ce qui ne marche pas quand tu deviens ministre.
Puis on parle toujours de réinvestissement, mais pourquoi on ajoute toujours de l'argent puis la qualité diminue constamment? Il me semble que ça devrait aller avec.
On enlève, on en rajoute et on génial. En rajoute, puis il n'y a rien qui change.
Je trouve ça génial, mais posons-nous la question toute la gang, là, puis répondez-moi au 418-971-1021, ce genre de choses-là qui sont prévisibles. Ah ben au mois d'août, on va manquer d'enseignants. Ou au mois de décembre, au mois de janvier, on va manquer de lits. Dans une entreprise privée, des gens qui font pas le travail année après année puis qui se font tout le temps prendre au dépourvu, puis 2-3 jours avant, ils paniquent, puis là, ils demandent de l'aide à tout le monde. Combien de temps ça dure en gestion dans une entreprise privée, ces gens-là?
Imagine-toi qu'ils sortent dans une entreprise comme la nôtre, le 22 décembre. « Hey! Tout le monde part en congé! Je sais pas ce qu'on fait! »
Exact!
C'est parce que le 23 décembre arrive à chaque année. Hein. Il y a moyen de prévoir un peu, il y a moyen de planifier, il y a moyen d'organiser. Les gens font ça, là.
Mais ça doit être, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui nous manque, nous, parce que ça a l'air tellement facile de se dire, ben on peut-tu le prévoir? Parce que année après année, depuis qu'on est né, c'est ça qui arrive dans ce temps-là. Mais pourquoi? Tu sais, si nous, on le sait, on n'est pas des génies, là. Si nous, on le sait, pourquoi ça se rend pas au gouvernement? Écoute, pourquoi ils sont pas capables de faire le travail?
Les entreprises privées sont capables de prévoir ce qui s'en vient. Les décorations de Noël sont déjà rendues dans Walmart. D'après moi, ils savent que ça s'en vient dans les environs du 25 décembre. Puis d'après moi, ils regardent les habitudes d'achat puis de consommation, puis ils sont en mesure de dire que les gens, de plus en plus tôt, aiment prévenir d'avance, puis faire leurs achats à l'avance, justement pour pas se ramasser à la dernière minute en panique générale. Comment un ministère et un ministre, comme le ministre de l'Éducation, peuvent se réveiller à une semaine et demie de la rentrée puis se retrouver exactement dans le même scénario que l'année passée. Au secours! Ouais. On manque de tout.
Puis Drinville est dans le trou parce qu'il va être probablement candidat à la chefferie de la Coalition Avenir Québec l'autre va décider de partir. Mais ça va être quoi, son bilan?
Ben, ça va être un bilan de rien. Ça va être un
j'ai
bilan.
J'ai renforcé la laïcité dans les écoles.
Quand le chanteur est mort, j'ai chanté du Cowboy fringant. On ressemblait à ça pas mal, je vois pas d'autre chose.
Hey, dans Arthabasca, normalement une partielle, ça attire pas vraiment l'attention, mais dans Arthabasca, bon, il y a le chef du Parti conservateur du Québec qui est présent, qui veut rentrer à l'Assemblée nationale. T'as le PQ qui ont mis un candidat d'une radio à Québec, qui est Radio-Canada, dans Arthabasca en disant ben c'est un petit gars de là, puis c'est un gars de droite économique selon lui. Le PQ veut continuer de progresser. Du côté de la Coalition Avenir Québec, pauvre gars qui s'est présenté pour eux dans cette circonscription-là. D'après moi, il s'est fait promettre autre chose, c'est-à-dire on va t'intégrer à l'organisation.
Oh oui,
après.
Oh oui.
Présente-toi, on sait que tu vas manger une volée.
Prends une balle pour l'équipe.
La candidate de Québec solidaire qui est en France actuellement, là, journée d'élection, elle est en France. C'est un peu hallucinant. Okay. Mais il y a de grands enjeux pour trois partis, du moins. Là. Le premier, c'est le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, qui lui veut faire son entrée à l'Assemblée nationale. Donc, pour les gars et les filles qui votent pour le Parti conservateur. Ce serait une belle fierté. Puis du côté du PQ, c'est vraiment qu'on veut pas faire voir Éric Duhaime rentrer à l'Assemblée nationale. Puis on veut de l'aide. En parlant la semaine passée avec un député du Parti québécois, ils sont tellement une petite équipe. Ils travaillent tellement fort que l'ajout d'un Alex Boissonneau, ce serait bénéfique pour, ouais. Pour l'organisation. Puis la coalition Avenir Québec, je ne sais pas si tu es capable de me prédire ce que François Legault pourrait écrire ce soir, ce qu'il pourrait tweeter ou demain, mais moi, si j'étais dans l'organisation de François Legault, comme je dirais, savez-vous quoi, c'est l'été, on dit rien, puis quand on fera la rentrée, on jasera de l'élection d'Arthabasca, mais ça va être une catastrophe.
Si on se fie à la dernière fois que François Legault a mangé une volée dans une partielle, peut-être qu'Arthabasca va avoir son troisième lien, je sais pas.
On aurait peut-être dû écouter les gens. Je sais pas.
Ouais, regardez-nous aller, là. On va changer tout ça. J'ai l'impression qu'Éric Duhaime va réussir à tailler sa place à l'Assemblée nationale. J'ai trouvé que Boissonneau a été un peu éparpillé, entre autres dans le débat qu'on a écouté ensemble du côté de LCN. Ça donne quasiment l'impression qu'il y avait juste une des deux personnes entre Éric Duhaime et Boissonneau qui avait déjà fait de la radio, là, parce qu'il y en a un qui était pas mal plus loquace que l'autre.
Mais de un, Boissonneau s'est présenté pour le mauvais parti. Il s'est présenté comme étant Alex Boissonneau de la coalition à venir. Y a-t-il des négociations avant? Tu sais, c'est ce que je me pose comme question.
Puis en même temps, on dit qu'il y a de la droite économique. Dans le temps de nos grands-pères, ce droite-là, il donnait des coups de règle dessus. Il était pas mal plus à gauche qu'à droite entre toi et moi.
Tu sais, j'en parlais tantôt avec Pascal. Il y a des gens qui m'ont écrit pour dire que je militais pas assez pour un parti en particulier. Puis je leur ai réécrit exactement ce que je vais te dire là. Moi, je dirai jamais aux gens pour qui voter. Ça arrivera jamais.
Tu vas reprocher à des médias d'être pro-ci, pro-ça. Ouais. Puis tu vas faire pire qu'eux autres de l'autre bord.
Exact.
Où est la putain de logique là-dedans?
Moi, tout ce que je veux, c'est que les gens fassent valoir leur droit de vote. C'est votre devoir de citoyen dans le secteur d'Arthabasca. Puis que vous fassiez un choix éclairé. Après ça, moi, je vais vivre avec la démocratie. Mais jamais je ne militerai pour un parti. Puis je vais vous dire, hey, votez pour lui ou votez pour elle. J'ai-tu des affinités avec certains chefs de parti? La réponse, c'est oui. Est-ce que je vais vous dire pour qui voter? Jamais. Je vous insulterai jamais en vous disant pour qui voter.
Tu sais, je pense que tout le monde est assez grand et est assez grande pour prendre ses propres décisions.
Ben oui.
Puis vous n'avez pas besoin des nôtres. Le fun, c'est de jaser, c'est d'échanger. C'est pas de faire la promotion d'un parti puis de devenir pourri vendu pour un ou pour l'autre ou pour l'autre. Vive Arthabasca, par exemple. Je trouve que cette élection-là, elle m'a été enlevée. Imagine-toi qu'à Québec, on a des débats avec des candidats puis qu'on parle pas des enjeux de Québec. C'est quoi les enjeux d'Arthabasca? Ouais, mais tu sais, l'enjeu, c'est qu'Éric Duhaime rentre à l'Assemblée nationale. Ouais. L'enjeu, c'est que le PQ a besoin d'une victoire forte pour continuer vers l'élection générale et idéalement faire élire Paul Saint-Pierre Plamondon. La CAQ, c'est de sauver la face. Québec solidaire est en France, passons. Les enjeux d'Arthabasca là-dedans, on n'en entend pas beaucoup parler, là, puis... Je trouve que ces gens-là sont utilisés à des fins politiques à gauche, à droite, au centre. Tout le monde fait la même affaire présentement. Ouais. Être un électeur, moi, je resterais peut-être chez nous. Puis en même temps, on a vu les gens qui ont voté par anticipation. C'est un chiffre impressionnant. C'est plus du quart des gens qui sont sortis voter. Très, très hâte de voir deux choses ce soir. Le résultat, évidemment.
Ouais.
Puis le taux de participation.
Ouais. En parlant sur les internets avec des gens qui étaient très à l'affût, là, on m'a dit que Victoriaville, c'est très, très, très parti québécois. Puis tout ce qui entoure, tout ce qui ceinture Victoriaville, c'est très parti conservateur.
Okay.
Fait, j'ai hâte de voir le résultat ce soir.
Ouais.
Honnêtement, je pense pas écouter ça, ben honnêtement.
Mais là, on fait pas des soirées électorales juste pour une partielle.
Non,
là,
je vais aller faire de la moto à soir.
Peut-être. Personne serait tourné vers Arthabasca en ce moment si c'était pas justement de la guerre entre Éric Duhaime puis Alex Boissonneau, deux figures publiques avec notoriété, mais surtout le résultat de ça. Si Éric Duhaime entre à l'Assemblée nationale, c'est là où l'intérêt est grand. Et si Alex Boissonneau réussit avec le PQ à fonder une équipe un petit peu plus ferrée, avec plus de positionnement, puis être capable de nous sortir un meilleur programme parce qu'il y a plus de gens qui y travaillent, ça devient intéressant.
Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont regretté de ne pas s'être attardés davantage à la partielle dans Jean Talon parce qu'il y en a beaucoup qui ont été déculottés du résultat. Puis on en a beaucoup parlé après aussi de dire, oh là là, c'est un signe précurseur que la CAQ va manger une volée à grandeur de la province et ainsi de suite. Peut-être qu'on n'a pas voulu se faire refaire le coup cette fois-là, ouais. Puis dire, ouais, ben ça intéresse les gens, ça donne des signaux. Puis évidemment, ben la présence et le combat d'Éric Duhaime à se faire une place à l'Assemblée nationale, ben ça rend ça doublement intéressant pour nous autres.
Là. Autre sujet, puis je pense pas qu'à Québec, tout le monde parle de ce sujet-là, mais ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Écosse est assez particulier.
Oui, hein?
Tu connais Tim Houston, c'est le premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Lui, il a décidé de tout simplement dire aux gens de la Nouvelle-Écosse interdiction totale d'aller vous promener dans le bois. Et si vous allez vous promener dans le bois puis on vous prend, c'est 25 000 $ d'amende. Quand j'ai lu ça sur le site de Radio-Canada, parce que j'avais vu sur Twitter hier des trucs passer, puis des fois, ça a l'air un peu conspi, tu sais.
Ouais.
Fait que puis j'avais pas vraiment accroché là-dessus, mais ce matin, j'ai lu l'article de Radio-Canada. Attends un peu, là. Ton premier ministre dit, Denis, tu peux pas aller te promener dans le bois parce que c'est très sec, il y a des dangers d'incendie de forêt, puis peu importe le bois ou le boisé où tu vas, si la police te prend, c'est 25 000 $. Tu dis, le premier ministre est devenu fou.
C'est parce qu'il y a pas... Il y en a qui vont faire des parallèles avec ce qu'on a vécu pendant la pandémie, mais ouais. Je vous rappelle qu'il y avait une pandémie. Là, dans ce cas-là précis, si je vais juste marcher dans le bois... Ma soeur partira pas un feu, mon chien partira pas un feu, mes espadrilles qui vont frotter sur le gazon sec, ça partira pas de feu non plus.
C'est ça. Tu fais un feu, 25 000 $ d'amende. Moi, je suis pour ça.
Oui,
okay? C'est hyper dangereux, tu fais un feu, 25 000 $ d'amende. Mais tu vas te promener dans le bois avec ton chien, 25 000 $ d'amende? Je veux dire, on est rendu où? Puis lui, ce qu'il dit, ben, le premier ministre a tenté de se délester de sa décision en disant « Ouais, c'est pas moi, c'est les experts! » Il dit qu'il avait consulté les experts, puis c'est eux qui lui disaient de faire ça, c'est-à-dire interdiction totale d'aller dans les boisés, les bois. C'est 25 000 $, that's it.
C'est-tu les mêmes experts qui disaient que la meilleure chance qu'on avait de sauver la planète, c'était d'arrêter de faire des enfants et de s'éliminer comme race?
Oui.
Ben, ouais, c'est peut-être pas les bons experts que ça prend, là. Moi, je suis pour que les gens continuent d'être libre de se promener dans le bois et d'utiliser leur bon jugement. Pogne la personne qui va fumer une top en se promenant en forêt, puis donne-y un 25 000, un 50 000, envoie-la deux semaines en prison, whatever. Mais la personne qui marche avec son chien, ou la personne qui fait du jogging, la personne qui continue de faire du plein air parce qu'elle est capable d'endurer la chaleur... Tabarnouche, laissez ce monde-là tranquille.
Ouais.
C'est excessif et pas rien qu'un peu. Là.
Combien de personnes en Nouvelle-Écosse vivent en campagne?
Il y a une maudite gang.
41%.
Ben là, il y a une ville en Nouvelle-Écosse. On caricature, mais c'est un peu ça pareil.
Il ouais, y aura certainement des contestations judiciaires, mais ça, tout ça pour dire que des fois, les experts, là, ils peuvent être à l'extrême pas mal. Là.
Ben oui, puis ça, c'est vraiment, vraiment là, étirer l'élastique au maximum. Dans des territoires, si on parle de la Nouvelle-Écosse, on pourrait parler du Québec, dans un territoire rempli de forêts, rempli de bois, rempli de parcs comme le nôtre. Imagine-toi ça, là. Qu'on nous interdit d'aller dans le bois à grandeur de la province.
Ouais.
Ça n'a pas de sens.
Dernier sujet avec toi, cher ami. J'en parlais un peu avec Pascal à 11h. Ce matin, j'étais dans le secteur Saint-Roch. J'habite maintenant dans le ghetto. Très content d'être dans le ghetto.
T'es retourné à tes sources?
Je suis retourné à mes sources. Et il y a de la construction. Il y a des endroits où c'est fermé. C'est de la couronne qui est fermée, là, à Pascal, de telle place à telle place. Puis là, je voyais des policiers à toutes les intersections. Écoute, à une intersection, il y avait 6 policiers. Un policier à Québec, ça gagne 100 000 par année.
Uh-huh.
Fait que là, moi, je regardais ça, 600 000 $ par année pour faire la circulation. Puis j'entendais Bruno Marchand dire « Non, on peut pas couper nulle part. On a déjà tout coupé dans le gras et tout ça. » Je vais parler avec Martine Fortier cette semaine. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais je me suis dit « Mais pourquoi les signaleurs routiers ne peuvent pas faire ce travail-là? » Puis il y a un auditeur qui m'a écrit. Puis ce matin, j'ai pensé aux auditeurs qui allaient m'écrire en me disant « Ouais, mais Yann, si c'est pas des policiers qui sont là, les gens vont faire fi des signaleurs routiers puis ils vont s'en crisser. » Puis là, j'ai dit « Mais mets juste un véhicule de police avec deux policiers à l'intérieur. Puis si jamais il se passe quelque chose, ben le policier peut aller voir le véhicule. »
Il part après le char.
Il part après le char. Mais 6 policiers pour une intersection, Denis, c'est... je pense qu'eux autres, leur rôle, là, en fait, c'était probablement leur rêve, c'était de courir après les méchants. Le faire la circulation constamment je suis pas sûr qu'on sauve de l'argent.
C'est drôle et tragique à la fois parce que Jean Talon a été en travaux cette semaine, puis j'ai vu exactement la même situation que toi dans Saint-Roch avec exactement le même nombre de policiers. Est-ce que les problèmes de gangs organisés sont réglés dans la région de Québec, puis ça fait en sorte que nos policiers, pour s'occuper, font de la circulation? Ouais. Tant mieux si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle.
On vient d'augmenter le salaire du chef de police de la ville de Québec parce que là, il y a plein de gangs de rue, mais là, nos policiers font la circulation. Fait que je sais pas, peut-être que c'est une décision avec les syndicats, une décision conjointe avec les syndicats des policiers à Québec. Fait que c'est pour ça que je vais parler avec Martine Fortier cette semaine.
Ça doit être une des jobs qui haïssent le plus. Il y a des policiers qui nous écoutent faire la circulation. Vous ne devez pas aimer ça bien.
Il y en a qui sont cool.
Il y en a qui donnent un show.
Il y en a qui se déguisent, qui mettent des petits gants puis qui font des petites danses. Moi, je trouve ça vraiment nice, mais à 100 000 par année, je préfère quand ils courent après m'emboucher.
Oui. Puis c'est pas tout le monde qui a la même capacité de mime non plus. Il y en a un qui disait aux voitures d'arrêter, puis ça a pris 4 chars avant qu'on comprenne ce qu'il voulait dire. Je comprends donner un show, mais peut-être être clair aussi en même temps.
Mais c'est ça. Ça se peut que ce soit une décision conjointe avec le service de police de la ville de Québec, le syndicat puis la ville de Québec. Donc, ça se peut que ce soit obligatoire que ce soit des policiers qui fassent la circulation. Mais je trouve que, mettons qu'on avait quelque chose à négocier dans les prochaines années, ça, ce serait pas pire. Mettre des agents qui sont des gardiens de sécurité pour faire la signalisation, assistés d'un véhicule de police.
De toute façon, j'ai jamais compris le monde qui essayait d'aller vite dans ces circonstances-là. Vous allez vous ramasser en arrière du même char dans la même file. On est tous pognés à la même place de la même façon. Ça donne rien de bougonner le signaleur. Ça donne rien de mettre en danger la vie des gens qui travaillent là. C'est comme les brigadiers scolaires, quand ils racontent ce qu'ils voient il y a tous les jours, tu sais, les gens qui se foutent des enfants, les gens qui ralentissent pas, les gens qui engueulent le brigadier, tu te dis, le monde est rendu malade. C'est peut-être pour ça qu'il y a 8 policiers à chaque intersection.
Peut-être. Qui se dit, c'est pas toi, Pascal, qui avait été jasé avec un signaleur routier parce qu'il était en sacrement après toi, à un moment donné, puis tu t'étais parqué comme plus loin.
Pour
excuse-moi, parce que là, c'était pas clair, ton affaire.
Oui, c'était... Oui, mais ça, c'était pas fort de sa part. Là. C'était autour du lac Beauport. Je me promenais, puis il y avait des constructions. Puis c'était assez étroit comme chemin. Fait que moi, j'arrive, puis je passe, puis le gars, il est dans un rayon de soleil, là. Mm-hmm. Littéralement, puis tu le vois pas. Fait que je roule à la limite qu'on me demande sur les panneaux, mais je passe, puis le gars, là, il m'engueule, là, puis il me traite de conne. T'sais, il est passé de 0 à 10 en l'espace de 2 secondes. Là. Grosse conne! Je suis comme, hein?
Tu l'avais pas vu?
Ben, je l'ai pas vu, mais j'ai pas passé dessus, là, tu comprends? Mm-hmm. Il est à côté, mais il est fru. Puis lui, il faisait signe à l'autre bord, je sais pas, comme je vois juste sa main dans le rayon de soleil, fait que j'avance, mais doucement, puis il est capable d'arrêter à ma fenêtre et j'arrête, puis il m'engueule. Puis là, il me dit, ben vas-y, charrue. Puis là, je passe.
Voyons.
Non, non! 0 à 10. Mais là, je ris parce que je suis comme, ben
voilà.
Grosse crise de conne. Je me demande s'il n'y avait pas ça là, puis il y avait charrue à la fin, ça, je m'en souviens. Puis là,
c'est-tu quelqu'un que tu connaissais?
Ben non, puis ça aurait été
pire. C'est familier pas mal. Hein,
écoute, c'est mon ex.
Ben, c'est moins pire que de faire ça sur Instagram.
je continue un peu. Puis je suis comme. Au début, je suis gelée, là. Je suis gelée, puis je fais, ben voyons donc. Moi, je veux juste dire, monsieur, on voyait pas, tu me coupes la parole, tu me traites de charrue, puis moi, je m'inquiète pour sa sécurité.
Ouais.
Et je me dis, j'ai dit pas, il vient de m'envoyer chier comme il a pris la Bible au complet avec qu'il mange de la merde. Non, ouais. Je suis une bonne personne. Je me stationne dans une cour d'entrée, j'arrive.
Alors que le gars t'avait déjà oublié.
Je sais pas, mais en tout cas, j'arrive, mes grands échasses, puis tout, puis c'est ça Yannick avait trouvé drôle, puis je dis bonjour, puis il fait bonjour. Je suis comme, tu me reconnais pas, hein? J'ai dit, je suis à charrue.
C'est moi, charrue.
J'ai dit ça pour ça. J'ai dit, je suis à charrue qui vient de passer, puis il change de face. Puis j'ai dit, écoute, je veux juste te dire, on te voit pas. Puis moi, je pense à ta femme, si t'en as une, ta blonde, puis tes enfants. T'es mal positionné en ce moment, et c'est ce que j'essayais de te dire, mais tu me laissais pas parler en m'insultant.
Tu y as rendu service.
Puis j'ai dit, moi, je le dis parce qu'en ce moment, c'est pas toi que je m'inquiète, mais plutôt la peine que ça peut faire à tes enfants et ta famille si tu te fais écraser. Moi, qu'il te manque une orteille en ce moment, ne dérange pas trop avec le beau chapelet de commentaires que tu viens de me faire. Puis en même temps, sais-tu quoi? Je leur ai sa conscience de ne pas te le dire. J'y penserai pendant 2 heures parce que je suis une bonne personne puis je ne suis pas la charrue que tu évoques. Puis il y a de même, OK, ben merci. Je fais juste réitérer. Je ne voulais pas contrevenir à ton signalement, mais t'es mal positionné, c'est dangereux pour toi.
T'as terminé cette belle intervention-là en disant « Pas passer à ta femme, c'est une charrue! » Puis t'es parti à courir.
Ben non! Je suis partie, j'ai fait « Regarde, Dans la vie, tout est une question d'attitude, puis moi, j'aime coucher sur mes deux oreilles, mais en pensant que je suis une charrue.
Y a-tu dit narcissique? Non,
non, non, il a gelé. Il a gelé parce que je suis arrivée avec, toute douce en lui disant, mais pour vrai, il était mal positionné.
T'as-tu des enfants avec?
J'ai pas d'enfants avec.
OK, c'est moins pire.
Mais non, mais c'était un vrai signal. Yannick, on s'est pas daté après.
Tempérez-vous.
Tempérez-vous. Merci beaucoup, Denis Gravel. Salut. On se reparle demain. On t'écoute dans le retour tantôt. Là, yes. C'est la rentrée radio. Fait que là, ton équipe, tu l'as, toi?
Oui.
Véro est là.
Ben, écoute.
Audrey Pinchot est là.
Je vérifie à 13h59, puis je te reviens à 14h. Tout est tellement volatile.
Stresse-moi pas. Stresse-moi pas. 12h32, on s'arrête, les amis.